Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, plus de 80 commerces pillés en quelques jours en Guadeloupe. La situation est très explosive, reconnaît le président de la République. Il faut que l'ordre public soit maintenu, dit Emmanuel Macron. Réunion ce soir à Matignon, alors qu'un appel à la grève touche maintenant la Martinique. Chez nos voisins européens, en pleine nouvelle vague de Covid, des manifestations aussi contre les restrictions en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche. Autriche confinée depuis ce matin. La troisième dose pour les plus de 40 ans dès aujourd'hui en Italie. En Allemagne, les mots tranchants du ministre de la Santé, les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts d'ici à la fin de l'hiver. À l'hôpital en France, du rassurant et de l'inquiétant. Rassurant, pas de vague en soins critiques à ce stade. Inquiétant, les hôpitaux sont à bout de souffle. Le directeur de la PHP à Paris, Martin Hirsch.
L'hôpital est en grande difficulté pour une première raison, qui est on a vécu 2 ans monstrueusement difficiles. Et on le paye.
13% de lits fermés à la PHP, faute de personnel. Covid et grippe, la campagne vaccinale est ouverte à tout le monde aujourd'hui. Dans l'actualité encore, les violences conjugales en hausse de 10% l'année dernière. Sans prise de conscience, nous allons droit dans le mur. La ministre des Sports appelle les clubs à mieux lutter contre la violence de certains supporters après le jet de bouteille contre Dimitri Payet à Lyon. La campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon vient de présenter son programme. Vote obligatoire, 1 milliard contre les violences faites aux femmes, 200 milliards pour l'écologie et le social. Vos questions 01 45 24 7000, notre invité à 13h30, Clémence Guettet, la co-responsable de ce programme. Vos autres rendez-vous, le feuilleton, une semaine dans la vie de deux bouchers à l'heure du véganisme. Jean Lebrun, les femmes du Panthéon, avant l'entrée de Joséphine Baker. Et puis Daniel Auteuil, avec Frédéric Pommier, dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est une situation assez insurrectionnelle qu'a décrite ce matin le président de la Chambre de commerce de Guadeloupe sur France Inter. Plus de 80 commerces ont été pillés ces derniers jours. Des bijouteries, des boutiques de téléphone, des articles de sport. Vraie guérilla, dit-il. Les écoles, collèges et lycées sont fermées aujourd'hui. À l'origine du mouvement, l'opposition des manifestants au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour certaines professions. C'est il y a une semaine qu'a été lancé l'appel à la grève générale. Des slogans contre le coût de la vie également. Depuis vendredi, la Guadeloupe vit sous couvre-feu. Une partie des barrages routiers a été démantelée ces dernières heures, mais il en reste, alors que c'est le début de la journée sur l'archipel. Et pour la première fois depuis le début de ces troubles, le président de la République prend la parole. C'était ce matin lors d'un déplacement à Amiens.
Moi, je veux d'abord dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens que la nation, depuis le début de cette crise, est à leur côté. Ensuite, je veux remercier les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui ont adhéré progressivement et de plus en plus à la vaccination. Et quand je regarde les chiffres des dernières semaines, il ne faudrait pas qu'une minorité très active fasse mentir ces chiffres. Il y a une adhésion croissante à la vaccination. Parce que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, comme les Martiniquaises, les Martiniquais, les Guyanaises, les Guyanais et l'ensemble de nos ultramarins ont compris que c'était la solution. Et qu'ils ont compris aussi que c'est grâce à la solidarité nationale qu'ils peuvent avoir accès à ces vaccins, là où dans la région, d'autres aimeraient les avoir et ne les ont pas. Et donc, notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection et ne rien céder aux mensonges, aux détournements d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Ensuite, il y a une situation qui est très explosive, qui est liée à un contexte très local, à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte et l'anxiété. Et on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques.
Et il faut que l'ordre public soit maintenu, dit encore le président de la République au micro de Maxence Lambrecq, qu'on retrouve un peu plus tard dans ce journal. 46% des plus de 18 ans ont un schéma vaccinal complet en Guadeloupe. Ce soir, réunion à Matignon entre le Premier ministre et les élus de l'archipel. Le climat va-t-il s'enflammer ailleurs aux Antilles? Appel à la grève générale en Martinique à partir d'aujourd'hui. Et puis des manifestations aussi contre les restrictions sanitaires ont également lieu en Europe ce week-end. Détail dans un instant. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter, le président et le gouvernement suivent de très près les manifestations en Guadeloupe contre les restrictions sanitaires entre autres, alors que la métropole subit une cinquième vague fulgurante.
Oui, parce que des manifs anti-vax, anti-pass, il y en a déjà eu tout l'été en métropole, mais sans atteindre ce niveau de violence. Ce week-end, on a tiré à balles réelles sur les forces de l'ordre. La première réponse, nous dit Matignon, est donc sécuritaire. Le rétablissement de l'ordre, d'où l'envoi de contingents du RAID et du GIGN. Faut-il que Sébastien Lecornu se rende sur place? La réponse est non, car cela mobiliserait des forces de l'ordre pour protéger le ministre de l'Outre-mer, ce qui n'est pas la priorité. Est-on dans une réplique du grand mouvement LKP de 2009? Rien de comparable, insiste l'exécutif. C'était à l'époque un mouvement contre la vie chère, largement partagé dans la population. Là, tout part d'une minorité hostile aux contraintes sanitaires. La Guadeloupe abandonnée, on entend beaucoup ça. À Matignon, on réfute par les chiffres. Dépenses records dans ce quinquennat. 154 millions d'euros dans le cadre du Ségur. 600 millions pour le CHU de Pointe-à-Pitre. Une nouvelle gouvernance pour la gestion de l'eau. Et 92 millions d'euros pour réparer les dommages du chlordécone. Une fermeté, Bruno, qui n'empêche pas de dialoguer. Olivier Véran, côté santé, va refaire de la pédagogie avec les soignants. Jean Castex, ce soir à Matignon, avec les élus guadeloupéens. Le préfet sur place avec les syndicats de pompiers, car eux aussi ont manifesté contre l'obligation vaccinale. Vigilance, enfin, sur la Martinique, pour voir si le privé embraye sur les mots d'ordre de grève générale.
Et la cinquième vague fulgurante en France, dixit le porte-parole du gouvernement. En moyenne, sur une semaine, le nombre de cas quotidiens de Covid a presque doublé. 18 000 hier, c'était 10 000 le dimanche précédent. En Allemagne, ce chiffre de contamination quotidienne est passé au-dessus des 65 000 la semaine dernière. Le taux d'incidence est de près de 400 contre 171 en France. Le taux de vaccination en Allemagne est parmi les plus bas en Europe occidentale, 68%. Comment convaincre les réticents d'aller se faire vacciner? Le ministre de la Santé, Jens Spahn, y va à la sulfateuse.
C'est une situation que nous décrivons depuis des mois. A priori, à la fin de l'hiver, comme on le dit parfois avec cynisme, chacun ou presque en Allemagne sera vacciné, guéri ou mort du fait de la propagation du très contagieux variant Delta. C'est pourquoi nous continuons de recommander urgemment à chacun de se faire vacciner, qu'il s'agisse du booster ou de la première injection. Celui qui n'est pas vacciné sera très probablement contaminé dans les prochains mois, à moins de faire très, très, très attention dans chaque situation du quotidien. On ne pourra échapper à l'immunité. La question est de savoir si ce sera par le vaccin ou par la contamination. Nous recommandons vivement de choisir la voie de la vaccination.
Les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts d'ici à la fin de l'hiver, dit donc Jens Spahn, propos recueillis par Nathalie Versieux. Voilà pour l'Allemagne, toujours dans cette Europe au cœur d'une nouvelle vague de Covid. L'Autriche connaît à nouveau depuis ce matin le confinement strict, manifestation ce week-end sur le thème dictature sanitaire. Manifestations et troubles aux Pays-Bas également, passés au confinement partiel, ce sont des violences pures de la part d'idiots, commente le Premier ministre, 145 personnes arrêtées en tout, des heurts aussi en Belgique où l'on généralise le télétravail et le port du masque. Autre pays européen à suivre, l'Italie. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
En direct de Rome, l'Italie intéressante pour d'autres raisons. Dans ce pays qui a souffert ô combien au moment de la première vague, on anticipe désormais beaucoup. Le taux d'incidence chez vous est d'un peu moins de 100 contre 171 en France, mais on passe dès aujourd'hui à la troisième dose pour tous les plus de 40 ans.
Et c'est même une accélération de l'accélération, car c'était prévu le 1er décembre, et la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'anticiper encore davantage. Pour recevoir sa troisième dose, il faut avoir reçu la deuxième il y a 6 mois, car au bout de 6 mois, l'efficacité du vaccin diminue de moitié, explique ici l'Institut National de la Santé. Et pour accélérer encore, les grands centres de vaccination seront rouverts, on en avait fermé un tiers. Pharmacies et médecins de famille vaccinent aussi, et certaines régions veulent innover, comme la Lombardie, qui veut vacciner dans les centres commerciaux et les métros. Le Piémont convoque ses administrés qui voudraient prendre leur temps. Le système de santé régional envoie un message 6 mois et 10 jours après la deuxième dose. Objectif, relancer la campagne donc, qui patine un peu avec 85% de la population des plus de 12 ans vaccinés. Ici en Italie, le vaccin est obligatoire pour le personnel de santé seulement. La troisième dose le sera aussi, mais je vous rappelle que le pass sanitaire, lui, est obligatoire pour tous les salariés du public comme du privé.
Bruce de Galzin en direct de Rome pour France Inter. Troisième dose pour qui en France? Ce sera une des questions examinées après-demain au Conseil de défense sanitaire. Un des signes de la recrudescence du virus chez nous, c'est le nombre de classes fermées qui est au plus haut depuis la rentrée. Selon le dernier décompte du ministère de l'Éducation, un peu plus de 4000, ce qui représente moins de 1% des classes du pays. Mais c'est tout de même 3 fois plus qu'avant les vacances de la Toussaint. Un exemple, à l'école du centre de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, c'est une classe double niveau CP-CE2 qui vient de fermer. Gérard Mohamed.
Les parents ont appris la nouvelle vendredi matin en lisant ce mot accroché sur un panneau de l'école.
Urgent, fermeture de classe CP-CE2. Les élèves de CP-CE2 ne pourront pas être accueillis.
Et en le découvrant, Anthony Delporte s'est dit 3 choses.
Mince,
encore, bientôt pour moi.
Et il n'est pas le seul à le penser apparemment. Ce représentant de la FCPE et de la PEP reçoit plein de coups de fil d'autres parents d'élèves.
J'ai des appels, j'ai des mails, des SMS pour se tenir au courant, pour savoir si éventuellement la semaine prochaine ils devront poser une ASA pour garder leurs enfants.
Une ASA, c'est...
Une autorisation spéciale d'absence ou du télétravail à la maison pour certains, ce qui est difficile. On verra.
Pour Ali, c'est tout vu.
Pas question. Pas question.
Il est angoissé à l'idée de revivre l'école à la maison et surtout que ses enfants prennent encore plus de retard sur les apprentissages.
Il faudrait rattraper encore le temps qu'ils avaient perdu. À la maison, ils ne seront jamais aussi compétents qu'un instituteur. Donc, non.
Alors la solution ne serait-elle pas de vacciner tous les enfants, même les moins de 12 ans ?
Je n'ai pas envie de prendre le risque à leur jeune âge. Autant nous, pourquoi pas, mais les enfants entre 5 et 9, j'y suis pas favorable, pour l'instant en tout cas.
La semaine dernière, sur les 40 000 classes que compte l'Académie de Créteil, 273 étaient fermées.
Reportage à Gérard Mohamed, France Bleu Paris. Un peu plus de 4000 classes fermées en tout en France à cause de cas de Covid. Et 28 écoles fermées, mais aucun collège ou lycée, selon le ministère de l'Éducation en fin de semaine dernière. Pour l'instant, cette nouvelle vague de Covid n'est pas hospitalière. Grâce au taux de vaccination élevé en France, le nombre de patients à l'hôpital augmente, mais reste contenu. 8000 patients environ, 1300 en soins critiques. Pas de vague hospitalière, donc heureusement, car l'hôpital est en piètre état. Les témoignages sur ce thème se multiplient. Le dernier en date, c'est ce matin sur France Inter, celui du patron de la PHP, les hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Encore des paroles alarmantes. L'hôpital est en grande difficulté, dit-il, après 2 ans monstrueusement difficiles. Et il y a des postes d'infirmières et d'infirmiers vacants, beaucoup.
Environ 1 000 sur 18 000. Grosso modo, on a, à cause de ce manque d'infirmières, et d'infirmiers d'ailleurs, à peu près aujourd'hui, nous à l'assistance publique, 13% de nos lits fermés. On ne prend pas 13% de patients en moins. Quand on regarde en hospitalisation, on prend 4 ou 5% de patients en moins. En revanche, en hôpital de jour, on prend 5% de patients en plus. Donc on arrive aujourd'hui, et merci aux équipes qui font ces efforts considérables, à soigner à peu près autant de patients, avec un peu moins de personnel, et avec un certain nombre de lits fermés. Ce qui explique aussi une partie des tensions. Ensuite, si l'hôpital va mal, c'est peut-être aussi parce que les acteurs hospitaliers eux-mêmes, dans leur mode de travail du XXe siècle, ne se sont pas encore complètement, n'ont pas encore tiré complètement les conclusions du fait que les aspirations des jeunes ne sont pas les mêmes. Les infirmières qui ont 24, 28 ans et qui aspirent à autre chose.
Martin Hirsch avec Nicolas Demorand et Léa Salamé ce matin sur France Inter. Interview à réécouter sur franceinter.fr. Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, la vaccination contre la grippe est ouverte à tout le monde et plus seulement les personnes fragiles. À Amiens ce matin, le président de la République a confirmé qu'un conseil de défense sanitaire se tiendrait bien mercredi. Le président, qui multiplie les déplacements à 5 mois de la présidentielle, est donc de retour dans la ville de sa jeunesse. Dans la ville aussi où s'était tenu un épisode marquant de la présidentielle 2017, les deux candidats, Macron et Le Pen, face aux ouvriers de l'usine Whirlpool d'Amiens en difficulté. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
En direct d'Amiens pour France Inter, le chef de l'État qui ne veut laisser aucun angle mort à 5 mois de la présidentielle a rencontré ce matin d'anciens salariés de l'usine.
Oui, 3 plans sociaux. En 3 ans, aucun repreneur ne fait l'affaire. On s'est fait avoir, admet Emmanuel Macron, dans un café avec 9 anciens salariés, dont Frédéric Chantrel de la CFDT.
C'est pas la visite du président qui va redonner un emploi à chaque, mais il suit ce dossier. Je lui disais, nous, Whirlpool, il y a 900 camions qui vont revenir de Pologne à Amazon en France, alors que c'était fabriqué là, à 3 km. Faudrait peut-être taxer ces entreprises pour arrêter toutes ces délocalisations.
Deuxième séquence, une sorte de grand débat au chevet de la Picardie. Services de l'État, élus, entreprises, associations. D'abord un point sur le déploiement de la 4G et le nombre de chantiers lancés.
Je suis un peu bas de plafond, hein. Mais j'ai 8, 4, 2, ça fait pas 25.
Voilà, un petit tacle aux opérateurs. Puis Xavier Bertrand prend le micro pour cogner la SNCF et la ligne si perturbée Amiens-Paris.
On a mis un ultimatum à la SNCF, si ça s'arrange pas, on arrête de payer. Nous, on met 1,5 milliard d'euros par an, on n'en a pas pour notre argent. On sera hors la loi, je l'assume, mais on paye plus.
Évidemment, Emmanuel Macron ne laisse pas passer. Coup de pression sur le calendrier des chantiers.
Comme on a réussi de pas prendre de retard pendant la crise sanitaire, on n'en prenne pas après la crise sanitaire, il y a encore moins de raisons. On est d'accord ? Eh ben, c'est une bonne nouvelle.
Le TGV à Amiens, horizon 2025. Puis vient le débat éolienne. Le projet offshore de 62 mâts au large du Tréport avec des élus locaux qui se sentent méprisés.
Quand est-ce qu'on va nous considérer un peu autrement que comme des incapables majeurs?
Le président du département, Stéphane Houssoulier, s'énerve. Emmanuel Macron est en train de lui répondre point par point avant d'aller voir des sages-femmes en grève, comme le réclamait le député insoumis François Ruffin, ne jamais lâcher le terrain.
Maxence Lambrecq en direct d'Amiens avec Lucien Lefebvre pour France Inter. La France en pré-campagne présidentielle, la déclaration officielle d'Éric Zemmour, c'est une question de jour, dit-il aujourd'hui à nos confrères de France Info. La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a présenté son programme, vote obligatoire, 200 milliards d'investissements dans l'écologie et le social, la 6e République, la reprise en main publique de la gestion de l'eau, entre autres. Ce programme, on en parle avec sa co-responsable Clémence Guettet, qui sera une des personnalités clés de la campagne de Mélenchon. Vos questions d'ores et déjà, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. À Amiens, Emmanuel Macron doit également annoncer dans les minutes à venir une bonne nouvelle pour la ville où il est né. Un nouveau pôle de la Bibliothèque Nationale de France doit y être installé pour abriter les collections de presse de la BNF. Bonjour Alexandra Hakoun.
Bonjour Bruno.
Il faut dire que les réserves de Paris débordent.
Un espace flambant neuf de 15 000 mètres carrés, comme ce sera le cas à Amiens, là, pour ses collections de presse. La BNF, en effet, en rêvait depuis des années, car les 375 kilomètres de magasins qu'elles occupent actuellement sur le site de Tolbiac à Paris débordent. Plus de 273 000 titres racontant fidèlement l'histoire de la presse en France. Un fonds unique au monde qui ne cesse de croître. 16 000 nouvelles entrées chaque année par dépôt légal, avec des trésors Bruno comme la Gazette de Théophraste Renaudot, premier journal paru en 1631. Et certains de ces trésors sont en danger, explique Marie Delobier, elle est la directrice des collections de la BNF.
C'est la presse de la Troisième République, essentiellement. Des périodiques, de la petite presse, sur du mauvais papier, du papier acide, avec des encres qui sont elles-mêmes acides. Cette presse-là, effectivement, est en danger. On envisage d'avoir des magasins robotisés, avec de l'oxygène raréfié, ce qui permettra, du coup, d'arrêter la dégradation des papiers acides. Et donc de conserver dans de bien meilleures conditions ces collections de presse en particulier.
Le conservatoire d'Amiens permettra aussi d'accélérer la numérisation des collections. 5 millions de pages l'ont déjà été et sont disponibles sur Gallica, la bibliothèque numérique en ligne de la BNF. Mais cela ne représente, Bruno, que 4% du fonds total, c'est dire le travail qu'il reste à accomplir. Surtout, il va falloir être patient, le nouveau site ne sera prêt qu'en 2028.
Ce nouveau pôle de la Bibliothèque Nationale de France à Amiens, donc merci Alexandra Hakoun. Le Conseil d'État rappelle ses obligations au ministère de l'Intérieur face au Covid. Il ordonne que des kits d'hygiène soient systématiquement proposés aux personnes en garde à vue, que ces dernières puissent avoir accès à du gel hydroalcoolique dès qu'elles le demandent et changer régulièrement de masque. Le Conseil d'État avait été saisi par les principales organisations d'avocats qui dénoncent les conditions d'hygiène dans les cellules de garde à vue et l'absence de mesures face à la pandémie. Les violences conjugales ont augmenté l'année dernière, année du confinement, et nettement, plus 10%. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Ariane, le ministère de l'Intérieur a rendu les chiffres publics ce matin.
Oui, ce sont précisément 159 400 cas de violences conjugales qui ont été enregistrés l'an dernier en France. Des violences qui ont en grande majorité visé des femmes, 87% des cas. Ces statistiques viennent du nombre de plaintes, mais aussi de témoignages, de signalements ou de flagrants délits. Pendant le premier confinement au printemps 2020, policiers et gendarmes avaient noté une baisse des violences enregistrées, mais beaucoup de personnes sont allées porter plainte une fois le confinement levé. Le nombre de faits signalés pour la période est donc bien en hausse de 10%. Et ça invite à la prudence pour le deuxième confinement. Le ministère de l'Intérieur enregistre un recul de 13% des faits pendant cette période, entre octobre et décembre. Mais les statistiques ne tiennent compte que des faits signalés jusqu'en janvier. Il se peut donc que des victimes se soient manifestées ensuite. Il va donc falloir attendre un peu pour avoir un état précis de la situation pour cette année 2020. À noter aussi l'an dernier, et c'est l'autre enseignement majeur de cette étude, le recul du nombre de personnes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, 125, 102 femmes, 23 hommes, ce sont 48 victimes de moins qu'en 2019.
Ce week-end, à Paris en particulier, quelques 20 000 personnes selon la police, 50 000 selon les organisateurs ont manifesté pour demander une meilleure prise en charge des victimes de violences sexistes. C'est la quatrième personne jugée en France, plus de 25 ans après le génocide au Rwanda. Claude Mouaimana est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Rouen. Longtemps, il fut considéré comme un réfugié en France depuis un quart de siècle, naturalisé français en 2010, employé à la mairie de Rouen. ancien chauffeur pour un hôtel de Kibuye au Rwanda. Il est accusé de complicité de génocide, complicité de crimes contre l'humanité. Claude Muhayimana avait été arrêté à la suite d'une plainte déposée par le collectif des partis civils pour le Rwanda, dont le président Alain Gauthier, chasseur de génocidaires, part régulièrement dans le pays pour retrouver des témoins et constituer des plaintes. Et Claude Guibal l'avait suivi à Kibuye.
Muhayimana, c'était cette maison-là. Là, le portail gris.
Il y a 27 ans, raconte Alain Gauthier, Claude Muhayimana était chauffeur à Kibuye, aujourd'hui accusé de complicité de génocide pour avoir notamment assuré ici le transport de miliciens.
Là où on arrive, là, à ce croisement, les Inera Amwe avaient leur lieu de rendez-vous pour partir en voiture pour aller tuer les habitants là-bas. Les rescapés qui s'étaient rassemblés ici à l'église, bon, ils ont tous été massacrés là, et d'autres ont été obligés de se jeter dans le lac parce qu'ils n'avaient pas d'autre issue possible.
Au Rwanda, des milliers de personnes ont été jugées et condamnées pour leur participation au génocide, à perpétuité ou à des peines lourdes. Parmi eux, beaucoup se sont réjouis d'entendre au mois de mai Emmanuel Macron promettre la fin de l'impunité aux génocidaires présumés cachés sur le sol français, comme cet homme au visage émacié.
Moi, par exemple, j'ai été emprisonné 15 ans. Mes enfants n'ont pas eu de père. Alors qu'eux, ils se sont enfuis avec leur famille. Nous, nos enfants, sont devenus comme des orphelins. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient jugés.
Il y aurait des dizaines de génocidaires présumés en France. Il a fallu attendre ces dernières années pour que 3 personnes soient enfin condamnées, alors que 27 ans après le génocide, témoins et souvenirs commencent à disparaître.
Claude Muhayimana, jugé à Paris, qui risque la prison en perpétuité. Le procès doit durer un mois. Une parade de Noël, une voiture fonce dans la foule et fait 5 morts et 40 blessés. Cela s'est passé hier soir à Waukesha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Les circonstances du drame doivent encore être élucidé. Y aura-t-il un jour un mort, des morts à nouveau en tribune ou sur le terrain à cause de la violence de certains supporters entre guillemets de football? À nouveau, des incidents hier soir dans un stade de Ligue 1, pas n'importe lequel, celui de Lyon. Tout début du match face à Marseille hier soir, une bouteille d'eau lancée contre le Marseillais Dimitri Payet au point de corner. 2 heures de tergiversation ont suivi avant l'annulation finalement de la rencontre. La commission de discipline de la Ligue se réunit aujourd'hui. Commentaire de Sylvain Kastendeutsch, le coprésident de l'Union Nationale des Footballeurs. Avec Nathalie Yanetta.
Il y a une forme d'abord de sidération et de choc, parce que comme beaucoup, je considère, pour y avoir évolué, que le terrain et en tout cas l'entourage très proche, c'est quelque chose de sacré qu'on ne devrait pas toucher. Et évidemment que les joueurs qui sont les principaux acteurs ne doivent pas être victimes de ce genre d'agression et d'incident. Mais bon, ça se passe. Donc en effet, maintenant, il faut une mobilisation générale, à la fois évidemment des institutions sportives, mais aussi des pouvoirs publics, politiques. Je pense que ça va passer par les 2 volets qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'il faut maintenant muscler et puis mettre vraiment en musique, c'est-à-dire, 1, la prévention, essayer d'être vraiment omniprésent, à la fois au niveau des acteurs, mais je vous l'ai dit aussi des pouvoirs publics, et puis la répression. La répression, parce qu'il faut punir ceux qui font ce genre de graves problèmes, trouver l'arsenal punitif.
Et autre réunion, ce sera demain. Gérald Darmanin, Roxana Maracineanu, ministre de l'Intérieur, des Sports et les instances du foot. Quant à Dimitri Payet, qui avait été touché à la tête par la bouteille, il n'est pas grièvement blessé, mais il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Bonjour Patrick Mignon.
Bonjour.
Sociologue, spécialiste de longue date des questions du supporterisme. Comment expliquer, Patrick Mignon, qu'il a fallu 2 heures pour décider d'annuler ou d'interrompre ce match?
Alors là, c'est une autre dimension du problème. C'est-à-dire que par rapport à ce genre d'incident, visiblement, on n'a pas réussi à trouver ou à appliquer une règle qui existe, enfin qui devrait exister. Donc voilà, c'est.
Alors c'est la demande de Roxana Maracineanu, commencer par avoir une règle claire. Qui doit décider? Oui. Est-ce que c'est l'arbitre au milieu d'une pression phénoménale ou est-ce que c'est le préfet puisqu'il est question d'ordre public en la matière?
Alors là, c'est très intéressant parce qu'on est exactement dans le problème quand on touche la question supporterisme, c'est qui est l'acteur? Est-ce que c'est le football? Dans ce cas, ça serait l'arbitre qui déciderait si on lui a donné ce rôle. Dans l'autre cas, si on dit que c'est l'État qui s'occupe de ces problèmes, on donnera, c'est le préfet. Oui. Or justement, la question aujourd'hui, elle est bien celle-là. Elle est de dire comment s'articule aujourd'hui par rapport à la question du football, du supporterisme, l'action proprement dite du football, et deuxièmement, la part que l'État joue dans cette affaire.
Et alors vous dites quoi, vous qui connaissez ça par cœur, Patrick Mignon, vous qui connaissez ça très bien, vous dites quoi, hier, c'est le préfet qui aurait dû prendre la main?
Non, je pense que c'est l'arbitre, normalement, l'arbitre doit appliquer des règlements qui existeraient dans la Ligue de football et qui prévoiraient qu'effectivement, en cas d'incident, on peut les décrire, on prend la décision d'arrêter le match. Ouais. Voilà. Ça devrait être ça. Sachant mais qu'effectivement il y aurait des tas de raisons pour lesquelles on pourrait dire il peut y avoir des je pense que là, de mon point de vue ça devrait être cette règle. Voilà. L'arbitre est juge de beaucoup des incidents sur le terrain, de toute nature.
Quatre personnes interpellées, deux toujours en garde à vue, dont l'auteur présumé du jet de bouteille. Il doit y avoir quoi? Des sanctions individuelles, j'ai envie de dire, évidemment, mais aussi des sanctions contre les clubs. Qu'est-ce qui permettrait d'éviter que des incidents de cette nature se reproduisent?
Écoutez, là, on retrouve un petit peu le débat qu'on a eu à la rentrée, quand il y a eu les incidents. C'est-à-dire que visiblement, par expérience, je le sais, c'est un problème sur lequel la responsabilité des acteurs est absolument pas fixée. C'est-à-dire qu'il y a un renvoi des responsabilités, notamment par mon expérience du côté du football professionnel vers l'État, alors que là, normalement, sur toutes ces questions, effectivement, du public, de quel public on veut, comment on discute avec lui. Sylvain Cassendeux, je parlais de la prévention, je pense qu'effectivement, c'est une dimension qui n'est absolument pas prise en compte dans cette question, en tout cas pas de manière sérieuse, parce que la répression, je dirais, elle fonctionne parce qu'il y a effectivement tout un dispositif préventif, et que là du coup on peut discuter de ce qui est de l'ordre de la santé des supporters en tant qu'association ou d'individus. Pour l'instant, ce sont effectivement des individus qui sont punis parce qu'ils ont commis des actes qui sont répréhensibles.
Il y a des bonnes pratiques ailleurs, Patrick Mignon? Il y a des bonnes pratiques dans un autre pays européen?
Oui, il y a de bonnes pratiques. Vous avez des pays qui ont été confrontés à des problèmes de hooliganisme beaucoup plus durs. Je pense à l'Angleterre, oui. Je pense à l'Allemagne, je pense même à la Hollande, dans lesquelles il y a des pratiques qui sont intéressantes. Je pense notamment, du côté, moi je suis assez partisan de ce qu'on pourrait appeler en l'occurrence le modèle allemand, mais ce qui s'appelle les fan projects, c'est-à-dire que il y a véritablement un vrai partage des responsabilités des acteurs du football et des acteurs de l'État ou des lenders, puisque l'Allemagne est décentralisée, et des supporters, et avec un travail qui est à la fois un travail qui articule bien le préventif et le répressif.
Et on partage les responsabilités. Merci Patrick Mignon, sociologue, voilà, Spécialiste des questions de supporteristes, d'avoir répondu à nos questions. La réunion de la commission de discipline de la Ligue, c'est en ce moment même. Allez, une activité plus calme et un bilan plus réjouissant pour finir ce journal. La France a égalé ce week-end son meilleur résultat au championnat d'Europe d'échecs. Deuxième place derrière l'Ukraine. Faut dire que l'équipe qui manipulait les fous, les tours et les dames était du tonnerre. Deux joueurs dans le top 10 mondial, Maxime Vachier-Lagrave, dont on entend régulièrement parler, et puis le jeune prodige Alireza Firouzja. Bonjour Béatrice Duguet.
Bonjour.
Portrait de ce garçon avec vous.
Alors il a dépassé ce week-end le seuil des 2800 points. Évidemment, ça ne vous dit pas grand-chose si vous ne pratiquez pas les échecs en compétition. Ouais. Jean-Baptiste Mulon, maître international et chef de la délégation française, vous éclaire donc.
Bah, tout simplement, il est numéro 2 mondial. Donc si on compare au tennis, c'est l'équivalent d'un Federer, d'un Nadal ou d'un Djokovic, sauf qu'il a 18 ans.
C'est un total qu'aucun joueur aussi jeune n'a jamais atteint, qu'aucun Français n'a même jamais atteint. Il est français depuis juillet. Il est plus précoce que Magnus Carlsen, l'actuel numéro 1 mondial.
C'est un vrai génie, oui.
Doublé d'un sacré compétiteur. Il était manifestement très déçu d'être seulement sur la deuxième marche du podium ce week-end. Il a, dit Jean-Baptiste Mulon, une vision stratégique, il calcule super vite et il est très créatif. C'est aussi un garçon qui a quitté l'Iran avec sa famille, peut-être parce que son pays lui interdisait d'affronter des joueurs américains et israéliens, mais il n'en parle jamais.
Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont venus chercher un petit havre de paix dans un pays qui les a accueillis à bras ouverts, et que ça lui a permis d'avoir plus de sérénité pour sa progression. Il a été très bien soutenu par son club de Chartres et aussi, surtout, par son maire de Chartres, qui s'appelle Jean-Pierre Gorge, son principal supporter et qui fait beaucoup de choses pour lui.
Prochaine échéance pour ce prodige, le titre mondial et de numéro 1 mondial, apparemment tout à fait dans ses cordes.
Et lors de ces championnats d'Europe, il a remporté 7 victoires en 9 parties. Merci Béatrice Duguet. Dans un instant, la météo puis l'invité du 13-14, Clémence Guettet, co-responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.
France 2.
Je suis sûre que le mobile du meurtre est relié à Camille Claudel.
Attends, vous voulez dire que le tueur s'en est pas pris à Béchu parce qu'elle était riche, mais parce que c'était une collectionneuse de Camille Claudel?
Exactement, c'est exactement ce que je veux dire.
Elle a l'art, il a la manière. L'art du crime, nouvelle saison inédite, dès ce soir à 21h05 sur France 2.
Le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est très nuageux au sud, c'est ensoleillé au nord.
Oui, de la Bretagne vers la région parisienne, le nord de la Seine, c'est du soleil avec un vent de nord-est assez désagréable. On a quelques averses tout de même sur la pointe du Cotentin et sur le nord de la Bretagne. Des Charentes et du sud-ouest vers le centre-val de Loire, le massif central, les Alpes et le nord-est, là c'est encombré avec quelques gouttes ici ou là, quelques flocons en montagne. On trouve plus de soleil en allant vers la Méditerranée. Il est discret quand même sur la Côte d'Azur et la Corse avec quelques averses. Et puis il fait un peu frais, souvent 5 à 9 degrés, 9 à 11 de la Bretagne au sud-ouest et jusqu'à 17 pour la Corse.
Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Dizier.
L'Union Populaire et la France Insoumise publient leur programme à 5 mois de la présidentielle. L'avenir en commun. Même titre, même format qu'il y a 5 ans, même éditeur, Le Seuil. Quelques amendements notables, on va en parler. 3 euros en librairie. Alors, quelle décision Jean-Luc Mélenchon et les hommes et femmes qui l'accompagnent prendraient-ils s'ils étaient élus? Le contexte reste marqué par la pandémie. Progression fulgurante de la 5e vague, dit le gouvernement. L'actualité sont aussi les tensions sociales en Guadeloupe. Au-delà des informations de ce début de semaine, ce programme, l'Avenir en commun, prévoit toujours la 6e République. Contre l'abstention, le vote obligatoire et d'autres mesures pour l'accompagner, une bifurcation écologique, la nationalisation, collectivisation, gestion publique des biens communs comme l'eau, le service et l'investissement public comme réponse à beaucoup de questions. Cela a un coût. Il est prévu un plan d'investissement de 200 milliards d'euros. Bonjour Clémence Guettet.
Bonjour.
Vous êtes co-responsable de ce programme, secrétaire général du groupe La France Insoumise également à l'Assemblée nationale. 01 45 24 7000 est l'appli France Inter. Pour vos questions à vous, auditeurs de France Inter, à Clémence Guettet. Le nombre de cas quotidiens de Covid, Clémence Guettet, a presque doublé en une semaine, de 10 à 18 000 en moyenne sur 7 jours. Page 72 du programme, abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire, abroger le pass sanitaire. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, il n'y a pas de pass sanitaire, même dans le contexte actuel.
Oui, bon déjà vous l'avez lu attentivement, je vous en remercie.
Je vous en prie, c'est le boulot.
Non, oui, en effet, on abrogera le pass sanitaire parce qu'on pense que c'est une mesure au mieux inutile, au pire qui est dangereuse. Ça crée une illusion d'immunité. Les gens pensent qu'ils sont protégés avec ce pass sanitaire, alors que la seule chose que ça instaure, c'est une société du contrôle avec des données personnelles qui auront un usage qu'on ne maîtrise pas encore. Et ce que nous on dit, c'est que par exemple, l'outil central et utile pour lutter véritablement contre cette épidémie et sa propagation, c'est le test. Qu'est-ce qu'a choisi de faire M. Macron ? Il a choisi de le rendre payant.
C'est le test et pas le vaccin ?
C'est les deux, évidemment. La politique vaccinale, elle est indispensable pour lutter contre ce virus, l'immunité collective. Nous sommes favorables au vaccin. Il n'empêche que cette politique de la matraque et du contrôle, elle ne porte pas ses fruits. Aujourd'hui encore, il y a des centaines de milliers de personnes dans notre pays, dont des personnes âgées très vulnérables qui ne sont pas vaccinées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de politique de conviction, d'explication. Comme le disait l'OMS, il
vous
faut convaincre,
qu'il n'y a pas eu de politique de conviction sur la vaccination ?
Non, il y a une politique de chantage absolu. Macron débarque dans nos télévisions, nous dit ce qu'on va devoir faire le lendemain, alors que ses ministres, des semaines plus tôt, disaient l'inverse. Sur le pass sanitaire, par exemple, la présidente de la commission des lois disait « Pour préserver nos libertés publiques, on ne le mettra pas dans les cafés, dans les théâtres, etc. » Véran arrive ensuite et nous dit « Ah ben si, en fait, ça va être obligatoire. »
Donc même aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir, même aujourd'hui avec 20 000 cas par jour, on irait librement au restaurant, dans les théâtres, dans les cinémas, sans aucun contrôle.
Nous avons proposé à de multiples reprises à l'Assemblée nationale, nous avons proposé des méthodes, des outils. Par exemple, l'instauration de purificateurs d'air, notamment dans les écoles, parce qu'on sait que c'est un bon moyen de lutter contre le virus.
Jusque-là, ça répond pas à ma question.
J'y viens. Par exemple, la société du roulement. Faire en sorte que tous les gens ne se trouvent pas au même endroit, au même moment. Et puis ensuite, évidemment, une politique de conviction sur le vaccin. J'en parlais, c'est indispensable. Il faut aller, par exemple, déployer les médecins généralistes pour aller à la rencontre des gens et leur expliquer en quoi pourquoi c'est important de se faire vacciner.
Honnêtement, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, l'intervention du mois de juillet a quand même eu beaucoup d'effets. La France est un des pays où le taux de vaccination des adultes est le plus élevé. Vous pouvez pas dire que ça a pas marché, ça.
Oui, et on voit que les gens qui se sont rués sur Doctolib pour avoir des doses de vaccin, c'est des gens comme moi, par exemple, jeunes, plutôt jeunes, en bonne santé, qui ne voulaient pas être privés de vie sociale pendant l'été et qui se sont dépêchés d'aller le faire. J'en reviens aux personnes âgées très vulnérables.
75% des adultes,
elles ne se sont pas ruées, elles, sur Doctolib.
13%
cette politique
en tout cas, des
80, sanitaire,
on est plus de 80 ans.
Elle n'est pas pensée de manière cohérente et logique. Et par ailleurs, j'en reviens à la façon dont les décisions sont prises, c'est un conseil de défense sanitaire à huis clos. Et que fait Macron? Il s'exonère le plus possible de débats au Parlement et le pass sanitaire a été prolongé jusqu'au mois de juillet pour éviter au mois de février de tirer le bilan et de parler à nouveau de cette politique sanitaire.
Autre sujet, donc pas de pass sanitaire si vous étiez au pouvoir. Autre sujet, Clémence Guettet, la Guadeloupe, plus de 80 commerces pillés, situation de guérilla, situation très explosive, dit le président de la République. Alors au-delà des mesures sociales pour la Guadeloupe, encore une fois, un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, 80 commerces pillés, que faites-vous?
Alors pas au-delà des mesures sociales, parce que c'est là le
non, mais il y a une situation problème. D'urgence à laquelle il faut répondre, et ensuite on vient au social. Je vais pas éluder le social. Hein. Mais ma question c'est, vous avez des manifestations qui virent au pillage, 80 commerces pillés, vous faites quoi?
Alors avant, je reviens quand même, parce que cette crise en Guadeloupe, ça fait 4 mois que les gens se mobilisent, descendent dans la rue et crient à quoi? Le scandale du pass sanitaire, de leur point de vue, là j'en reviens à ce que je disais sur la politique d'explication qui doit être menée.
Et on est d'accord qu'il faut dire aux Guadeloupéens de se faire vacciner, si je suis ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Il faut leur conseiller, bien évidemment. On sait que ça permet d'éviter les formes graves. Nous sommes convaincus par la politique de vaccination, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais deux, il faut des mesures de lutte contre la vie chère, parce que ce qui est dénoncé par ces gens qui descendent dans la rue, c'est aussi la précarité extrême. Et puis troisième point, la situation de l'hôpital public. Quand on envoie des forces de police dans les hôpitaux pour dire aux soignants, pour matraquer les soignants, ça n'est pas une façon d'apaiser la situation. Et donc non, envoyer le GIGN et le RAID au dernier moment comme ça a été fait, c'est pas la politique qu'on aurait menée, bien évidemment.
Et vous dites quoi aux commerçants, les bijoutiers, les marchands d'articles de sport, de téléphones qui se sont fait piller leur magasin? Vous leur dites quoi?
Mais nous, on déplore ces violences. Sauf que si vous voulez, il faut prendre la situation à la racine. Il faut écouter les acteurs politiques guadeloupéens. Il faut écouter les syndicalistes et ce qu'ils disent depuis des mois. Donc, ça n'est pas... Évidemment, on se retrouve dans une situation extrême avec de la violence. Elle aurait pu être évitée. Il faut du dialogue social. Macron agit là, en Guadeloupe, comme il a agi avec les Gilets jaunes, où tout a démarré par une colère sur une question de fiscalité, pour finir par une revendication démocratique plus
même
large.
Même s'il y a des dizaines de soignants qui sont venus de métropole et que la situation a été largement prise en compte et prise en charge, la situation sanitaire.
Bah alors parlons de la situation de l'hôpital public. Cette année encore, 1 milliard de moins dans le budget pour l'hôpital public français. Nous sommes le seul pays européen, je crois,
des hausses de salaire, malgré tout.
Oui, alors des miettes, évidemment, des centaines
vous
d'euros.
Vous dites des miettes.
Mais oui, des miettes, 300 évidemment.
300 comptant hausse de salaire et primes.
Les soignants en France sont extrêmement mal payés. Et pire que ça, il faut parler de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, parfois, vous avez une aide-soignante pour 20-25 patients. Elles ne peuvent plus soigner dans de bonnes conditions. Il y a une souffrance à l'hôpital public en France qui est absolument terrible. Première chose qu'on demandera, un moratoire sur les fermetures de lits. Pourquoi ces lits ont-ils été fermés? Pourquoi on continue de les fermer pendant cette crise sanitaire alors qu'on sait qu'on va se retrouver confronté à cette cinquième vague dont vous parliez?
Allez, le programme, il y a beaucoup de questions au standard. Catherine qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi c'est par rapport au vote obligatoire. Je suis pour.
Oui.
Personnellement, parce que je trouve que ça pourrait donner aux gens l'occasion de lire les programmes, se renseigner, enfin s'ils sont obligés d'aller voter.
Mais il faut des contreparties de votre point de vue?
Moi, oui, une reconnaissance du vote blanc.
Clémence Guettet, est-ce que... Alors, je lis le chapitre 4, point 4, chapitre 1, démocratie, institution, république permettant l'intervention populaire, donner le droit de vote à 16 ans, mettre en place le vote obligatoire, mais oui, il y a des contreparties, reconnaître vote blanc et instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection. Mais vote obligatoire?
Oui. Déjà, merci à Catherine pour sa question. Je pense que c'est un questionnement plus large sur comment on refait démocratie, comment on refait corps collectif et citoyen dans notre pays. La mesure centrale que vous n'avez pas évoquée, pour nous, c'est le passage à la 6e République, oui, avec une constituante. C'est une série de mesures qui se tient dans son ensemble. Vous le disiez, la contrepartie du vote obligatoire pour nous, c'est la reconnaissance du vote blanc. C'est dire aux gens, il y aura possibilité d'exprimer et de reconnaître le fait que s'il n'y a pas d'option politique qui vous satisfait, le vote blanc est pris en compte dans les résultats.
Et la reconnaissance d'un seuil, ça veut dire qu'au régional et au départemental, il y a un paquet de gens qui ont été élus qui ne l'auraient pas été selon ces règles-là.
Oui, bon, en l'occurrence, on aurait aussi instauré le vote obligatoire, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais si vous voulez, le vote obligatoire, le RIC, la possibilité de révoquer des élus...
Référendum d'initiative citoyenne.
Exactement, révoquer des élus, proposer des lois, abroger des lois, le droit de vote à 16 ans. À 16 ans, on peut travailler, mais on ne peut pas exercer son droit démocratique. Tout ça, ce sont des mesures pour redonner confiance, pour dire aux gens aussi qu'ils auront des outils de contrôle sur leurs élus. Ce qu'on veut, c'est en finir avec... y a une campagne qui est menée âprement par des candidats une fois tous les 5 ans, et ensuite blanc-seing, conseil de défense sanitaire, décision à huis clos, monarque présidentiel qui décide de tout pour tout le monde. Nous, on veut que les élections, ce soit avec le peuple.
Le référendum d'initiative citoyenne, quel seuil de signature de citoyens pour déclencher ce référendum? Aujourd'hui, il y a le référendum d'initiative partagée, faut en gros 5 millions de signatures pour mettre Combien alors?
Alors nous on va étudier plusieurs hypothèses. On avait parlé d'un million de signatures à un moment donné. Les grosses pétitions, par exemple sur l'inaction climatique, ont atteint ces seuils-là. Le but c'est que ce soit possible, mais qu'il faille une mobilisation populaire pour montrer qu'il y a une vraie attention à certains sujets. Et ça, on le déclinera dans une série de plans. J'en profite pour le dire. On s'arrête pas à ce programme. Il va y avoir une dizaine vraisemblablement de plans d'action gouvernementale pour préciser le calendrier de mise en œuvre et ce type de précision, notamment sur la 6ème République et les outils de reconquête démocratique.
Jules au standard. Bonjour Jules.
Oui, bonjour.
Qui nous appelle de Vendée.
Oui, ma question est très simple. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, en cas de difficulté à rassembler, serait en mesure de s'effacer derrière une candidature commune ou est-ce qu'on doit s'attendre encore à un éparpillement des voix à gauche dès le premier tour?
Clémence Guettet.
Merci Jules pour la question. C'est une question qu'on nous pose quand on va militer, essayer de convaincre sur le programme. J'en reviens à cet outil central. On est les premiers à proposer un projet présidentiel qui soit complet. Le but, c'est de dire, on met les cartes sur la table.
Vous dites comme les autres, oui, pas à l'unité, mais c'est nous qui restons.
Discutons de fond, en fait. Discutons de ces sujets.
Souhaitez-vous que la gauche présente une candidature unique, sondage Ifopière dans le JDDU, candidature unique France Insoumise, PCP, SVR, réponse des sympathisants de gauche? Oui, 70%. Et tous, vous vous asseyez là-dessus.
Et derrière qui? Est-ce qu'ils ont précisé dans votre sondage?
Non, mais candidature unique et personne ne veut la faire.
Nous, on a fait plusieurs propositions. Jean-Luc Mélenchon a tendu la main. Il a proposé une fédération populaire. Il a proposé de se rassembler autour de causes communes. À chaque fois, on a porte close. C'est étonnant parce que dès qu'on amène le sujet des discussions programmatiques, des discussions sur le fond, il n'y a plus personne. Que dit Anne Hidalgo, par exemple, sur le maintien dans la 5ème République? Elle est pour. Nous, on veut la 6ème. Qu'est-ce qu'elle dit sur le nucléaire? Flou. Qu'est-ce que dit Monsieur Jadot sur, par exemple, les traités européens qui vont, on le sait, être des freins par rapport à la politique qu'on veut mener sur le protectionnisme?
Il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de gauche au second tour.
Nous, en tout cas, on est en campagne. On tend la main pour des discussions sur le fond. Jean-Luc Mélenchon, s'y est dit prêt, il l'est.
Patrice au standard.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Patrice.
Il y a actuellement une outrecuidance des responsables politiques et du lobby nucléaire pour relancer la filière et à faire croire qu'un accident majeur est très très peu probable et à considérer que la gestion des déchets est quasiment réglée avec le projet CIGEO. Concrètement, est-ce que vous êtes prêt à arrêter ce fameux projet CIGEO qui est le dévoiement de notre démocratie par les mensonges de l'argent et quelles sont les propositions dans le projet Jean-Luc Mélenchon en termes d'énergie? Merci.
Clémence Guettet. Alors, petit 1, CIGEO, donc à Bure, on arrête le projet d'enfouissement des déchets nucléaires ou pas?
Bien sûr.
On sort du nucléaire quand?
Alors, on reprend le scénario Négawatt, qui est sorti le mois dernier, qui dit maximum 2045, fermeture de tous les réacteurs en France. On sait qu'il va falloir du temps, nous on veut le faire le plus vite possible. On pense qu'il faut une politique volontariste pour plusieurs raisons. Un, c'est dangereux. Je vous ramène au lanceur d'alerte de Tricastin qui a parlé la semaine dernière d'une politique de dissimulation de ces incidents nucléaires. On sait que les centrales et les réacteurs vieillissants ne sont pas résistants au changement climatique. Soit parce que l'eau monte, soit parce qu'au contraire, sécheresse. 2003, la canicule, il y avait un quart des réacteurs en France qui étaient arrêtés. Donc,
2045, les énergies renouvelables sont suffisamment avancées pour prendre le relais.
100% d'énergies renouvelables à horizon 2050, en effet. Oui.
Vous parlez de bifurcation écologique. écologique et vous, le programme propose un plan massif d'investissement écologiquement et socialement utile. 200 milliards, oui. Clémence Guettet. Les dépenses d'Emmanuel Macron depuis le début de l'année, certains l'accusent de cramer la caisse, c'est un peu plus de 50 milliards. Vous êtes quatre fois au-delà. On finance comment ?
Alors, bon, il y a plein de sources de financement quand on veut trouver de l'argent.
200 milliards.
Bien sûr, mais bien sûr. Revenir sur rétablir l'ISF, 10 milliards. Le CICE, 20 milliards. Les niches fiscales polluantes, ça fait 36 milliards par an à peu près. La lutte contre la délinquance 66. Et l'évasion fiscale, 36 à 100 milliards selon les estimations.
Ah ouais, là, c'est très large.
Mais il y a plein de possibilités de trouver de l'argent pour refinancer nos services publics et faire la bifurcation écologique. Le tout, c'est de le mener de manière volontariste, et ce que nous voulons faire en plus, c'est une écologie qui soit populaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas aux plus pauvres de pâtir de ces décisions. Il y a des riches et des très riches qui cachent l'argent, qui le mettent à l'étranger aujourd'hui et qui doivent financer ce projet.
Vous nous dites que vous trouverez 200 milliards. J'ai les deux programmes, celui d'il y a 5 ans et celui d'aujourd'hui entre les mains. Un gros changement à propos de l'Europe. Il y avait un chapitre entier qui était consacré il y a 5 ans, qui était titré « Sortir des traités européens ». Il n'en est plus question, c'était une bêtise.
Alors, vous avez peut-être mal lu la nouvelle version.
Sortir des traités européens, ça y est plus.
Plan A, dans la nouvelle version, nous ferons de nouveaux traités européens. Pourquoi ? Pour qu'ils soient compatibles avec un mieux-disant social et écologique.
Voilà, il est question de réformer, mais plus d'en sortir.
Ceux qui disent aujourd'hui qu'on pourrait appliquer un programme tel que le nôtre avec l'accord de l'Union européenne se trompent ou mentent ? Au choix. Nous avons une série de rapports de force qui vont devoir être menés. Je vous prends qu'un exemple, la relocalisation de l'agriculture, par exemple. Quand on dépose des amendements pour que dans les cantines, nos gamins soient nourris avec les productions agricoles qui sont autour, on s'expose à contrevenir aux règles de l'Union européenne, par exemple, pour la libre concurrence, le libre marché. Nous appliquerons notre programme. Quoi qu'il arrive, avec des opt-out, avec la politique de la chaise vide, avec le fait de remettre en cause notre contribution au budget de l'Union européenne.
Mais on ne parle plus d'en sortir, on est bien
beaucoup
d'accord.
Beaucoup de pays le font déjà. La règle des 3%.
En un mot, on peut parler d'une Europe austéritaire, alors qu'il y a eu un grand plan à 750 milliards d'euros.
Mais justement, c'est un très bon moment.
En un mot, je suis en train de me faire gronder par tout le monde là.
C'est un très bon moment pour reprendre la main sur la politique française au sein de l'Union européenne, si j'y arrive. Parce que ce sera la présidence française à ce moment-là, et parce que c'est le moment où les règles austéritaires qui ont été remises en cause pour répondre à la crise sanitaire vont être réintroduites. Nous dirons que nous espérons que nous pouvons en sortir. Ce dogme, il n'a pas de sens. On y a déjà désobéi 171 fois en 10 ans. D'autres pays que la France, sans aucune sanction. C'est possible,
merci.
On va le faire.
Merci Clémence Guettet. L'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est en librairie pour ceux qui veulent se pencher dessus. 13h46.
France Inter. Le 13-14.
Et bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
À suivre le vif avant l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, les femmes du Panthéon.
Oui, parce que le plan A pour le Panthéon, c'était Sainte-Geneviève. La première femme au Panthéon, c'est elle.
Sainte-Geneviève, dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton, la vie de deux bouchers à l'heure du véganisme. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Un chanteur à votre micro aujourd'hui, Daniel Auteuil. Mais oui, le comédien est en concert ce soir près de Lyon pour présenter les titres de son premier album, Si vous m'aviez connu.
Alors pour l'heure, lui-même n'emploie pas le mot concert prématuré, dit-il. Il préfère parler de spectacle musical. Et puis en l'occurrence, sur scène, il ne fait pas que chanter, il raconte aussi des histoires. Pour autant, son album est vraiment un album pour lequel il a mis en musique des poèmes de Rimbaud, Apollinaire, Jean-Paul Toulet, mais également ses propres textes, sachant que Daniel Auteuil, il a vraiment été élevé dans la musique.
Mes parents étaient artistes lyriques, faisaient de l'opéra, de l'opérette, et je suis né dans un opéra, j'étais gardé par les machinistes dans un couffin. Donc oui, il y a eu de la musique tout le temps, tout le temps. Après, un peu plus tard, j'ai découvert une autre musique qui était la variété, et qui m'a beaucoup plus la variété française, les chanteurs français, puis sont arrivés dans les années 60, les Américains, les Anglais, tout ça. Excusez-moi, je suis long quand je parle, parce que j'ai été longtemps muet, mais maintenant je parle énormément, je me suis débloqué. Donc oui, ça a été très important, la musique, oui.
Est-ce que vous avez souvenir de votre premier choc de chansons ?
Ouais. C'était Johnny Hallyday, c'était Retiens la nuit, une chanson de Charles Aznavour et de Georges Garavans. Je l'ai écoutée comme un fou, j'ai adoré cette chanson, Retiens la nuit. Pour moi, elle paraît si belle. Je savais pas ce qu'ils allaient faire toute cette nuit-là. Je l'ai su plus tard, ce qu'ils faisaient pendant la chanson toute la nuit. Mais ça m'a plu.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance, dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide emmoussade. Alors j'ai rempli ma panse.
Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent.
C'est la fête de,
c'est la fête de trop. Je l'ai faite, défaite, et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je luis de paillettes et me réduis au chaos.
C'est donc une chanson d'Edith Préto qu'a choisi Daniel Auteuil, Frédéric.
Fête de trop, ouais. Un extrait de son tout premier album. Daniel Auteuil a tout de suite aimé ce garçon-là.
D'abord, la première fois que j'entends ce chanteur, quelque chose dans sa voix me fait penser à un chanteur que j'ai adoré, qui est Claude Nougaro. C'est quelqu'un aussi qui a un grand sens de la mélodie et des mots. C'est du Baudelaire, hein, ce mec. C'est du Baudelaire. Et le personnage me touche énormément. C'est quelqu'un qui emprunte une émotion tellement forte, tellement contenue, que ce besoin qu'il a à tout prix de s'exprimer et d'être aimé tel qu'il est. J'ai entendu ça au-delà des mots et de la musique.
Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop.
Est-ce que vous, il vous est arrivé de vivre la fête de trop?
Oui, ça m'est bien sûr arrivé, mais je n'en dirai pas plus.
Vous me disiez que l'une des premières chansons à vous avoir marqué, c'était « Retiens la nuit ». Mmh. Fête de trop, c'est aussi une histoire nocturne.
Et je m'aperçois aussi que j'écris des chansons qui parlent beaucoup de la nuit et des fêtes nocturnes. Ouais, ben on ne se refait pas.
Quand vous entendez cette chanson-là, elle vous ramène à quoi?
Peut-être à une adolescence, en tout cas à une énergie. Elle me ramène à un désir toujours exaltant de continuer à brûler, parce que sinon, on se réduit en cendres.
C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite, et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde lui de paillettes et me réduit au chaos.
Fête de trop, Edith Préto. C'était donc Frédéric, le choix de Daniel Auteuil.
Qui sera ce soir sur la scène du Radion à Caluire pour son spectacle musical Déjeuner en l'air. Ensuite, il y aura Soissons, puis le Trianon à Paris en février. Et toujours son album, Si vous m'aviez connu, avec notamment des textes de Paul-Jean Toulet, et non pas Jean-Paul Toulet. Un album réalisé par Gaëtan Roussel.
Merci Frédéric Pommier. Le feuilleton. Une semaine dans la vie de deux bouchers. Ils sont au croisement de deux sujets fréquemment évoqués aux pages société des magazines, les reconversions, ces hommes et femmes qui changent de métier parce qu'ils ne trouvent plus d'intérêt dans leur travail, et puis la viande mal vue, l'élevage intensif responsable des émissions de gaz à effet de serre, le véganisme qui se développe. Alors Roland de Linares et Benjamin Tixier sont bouchers dans le 16e arrondissement de Paris. Leur reconversion date d'il y a 2 ans. Ils racontent à Sarah Guibaudot autour d'un gros morceau de bidoche.
Bonjour. Bonjour, vous êtes Roland?
Benjamin.
Benjamin, enchanté.
On a pensé à vous, il y a une cuisse de bœuf à désosser.
Pour faire des rôtis de bœuf, du steak haché, des steaks, mais aussi du bourguignon dans le jarret. Donc voilà, il y a toutes les parties de la cuisse. Et toutes les semaines, on reçoit... deux demi-carcasses, donc avec la cuisse, l'épaule, le collier, ce qu'on appelle la loyau, donc avec les côtes, le faux filet, le filet. Et voilà, et donc après, il y a à nous de faire la découpe. Cette cuisse, je dirais qu'elle pèse à peu près 80 kilos. à quoi on voit que ça va faire de la bonne viande. Déjà, ce qu'on appelle le gras de couverture. Donc c'est le gras qui est à l'extérieur de la bête. S'il y a du gras de couverture, ça veut dire qu'il y a du gras à l'intérieur des muscles, qu'on voit là sur la côte de bœuf. Et c'est ça qui va donner ce qu'on appelle le persillé de la viande, qui va donner du goût. Tiens, Nathan, on va sortir les cuisses.
Voilà.
Il y a un côté physique. Mais c'est ça aussi, c'est ça qui nous plaît dans ce métier, c'est de faire quelque chose de s'impliquer physiquement et de faire quelque chose de ses mains. Donc c'est toute la beauté du métier. Pour ce soir, pour demain, pour...
Peut-être demain.
Ouais. Dans ce cas-là, vous la sortez bien une heure avant du frigo. Et une bonne noisette de beurre et 2 minutes de chaque côté dans une poêle très chaude.
Comment vous avez eu le déclic pour le métier de boucher? Vous n'étiez pas destiné à ça?
Non, pas spécialement. Benjamin, mon associé et moi, on n'avait pas de boucher dans notre famille. On ne connaissait pas grand-chose, voire rien du tout au métier. Et après un cursus plutôt classique de prépa, école de commerce, on a tous les deux fait 3 ans de conseil en management et en conseil en système d'information. Et donc au bout de 3 ans, on s'est dit qu'on voulait être commerçant. Ça s'est fait un retour de mariage. J'étais avec Benjamin, que je connais depuis la 3e, et je disais à Benjamin, j'ai aucune envie de retourner au travail. J'ai vraiment envie de devenir boucher et il m'a dit, moi aussi, ça me tend très bien.
Benjamin, vous vous souvenez du moment où, avec Roland, vous avez décidé de vous lancer?
Ah, très très bien, comme il vous l'a dit. C'était au début ce qui paraissait être une blague. Au fur et à mesure, en réfléchissant, ça devenait assez évident de vouloir changer pour quelque chose d'effectivement un peu plus concret, un peu plus humain, un peu plus manuel. C'est parti encore une fois d'une blague autour d'une bière. Et puis la 2e fois qu'on en a parlé, c'était un peu plus sérieusement autour d'un déjeuner. Et puis la 3e fois, on a commencé à bosser un peu.
On s'est renseigné sur la manière dont on pouvait faire cette reconversion, sur les diplômes, voilà.
Est-ce qu'il y aura autre chose, monsieur, avec le mobilet?
Ouais.
Bonjour, Rosé.
On a tous les deux eu cette envie d'être commerçant et de faire quelque chose, je pense, d'un peu physique, de mouiller le maillot un peu dans notre métier. Voilà, tout peut être fait avec ses bras et ça veut dire qu'il faut y consacrer du temps, donc c'est beaucoup de travail. Mais par contre, c'est la satisfaction de savoir qu'on peut tout faire soi-même, par ses mains et son savoir-faire.
Au revoir madame, merci, bonne journée.
Les deux bouchers Roland de Linares et Benjamin Tixier, on les retrouve demain. Le feuilleton est réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, première d'une série de chroniques consacrées aux femmes du Panthéon avant l'entrée de Joséphine Baker le 30 novembre. Le lieu est dédié depuis longtemps à une femme, c'est Sainte Geneviève.
C'est la patronne de Paris. Comme elle avait gardé les troupeaux à Nanterre, on l'a mis à garder un autre troupeau, Charles Péguy. En réalité, même si elle est née en effet à Nanterre, disons en 420, ce n'était aucunement une bergère, mais issue de l'aristocratie gallo-romaine, une grande propriétaire. Elle avait vu se décomposer l'Empire romain et ses derniers souverains se déconsidérer. Ils se nommaient, vous savez, Olibrius, Romulus, Augustule. Vois cette ligne, Geneviève, entre les deux forêts, là-bas où les barbares vont venir. Paul Claudel. En 451, elle avait exhorté les habitants de Lutèce à ne pas se débander, alors qu'ils étaient menacés par Attila et les Huns. Près de 50 ans plus tard, elle contribua largement à convertir Clovis et ses Francs, qui brûlaient de faire de Lutèce leur capitale, Paris. Alors ajoutée à sa longévité exceptionnelle, ses capacités de thaumaturge, c'était une personnalité inouïe.
Le sommet de la montagne Sainte-Geneviève est depuis très longtemps occupé par une basilique qui porte son nom donc, et qui va être reconstruite dans la 2e moitié du 18e.
N'avez pas oublié que le roi Louis XV se vautrait dans l'adultère avec Madame de Châteauroux. Il tomba très malade à Metz et fit le vœu, s'il guérissait, de reconstruire cette basilique. Revenu à Versailles, il confia ce soin au frère de sa nouvelle maîtresse, Madame de Pompadour, qui choisira Soufflot comme architecte, et Soufflot mourra en 1780 sans que les travaux soient achevés.
Et la basilique n'est pas encore consacrée. Quelle est laïcisée en Panthéon, 1791?
Ouais, mais sa vocation est marquée par l'incertitude, comme son architecture par la fragilité. Alors, Voltaire entre en 1791, Rousseau en 1794, fort bien, ça c'est le volet Panthéon des Lumières. Mais l'autre, le Panthéon pour les révolutionnaires contemporains. Il faut en fait assez vite dépanthéoniser Mirabeau pour monarchisme dissimulé, Marat très vite au bout de 5 mois pour extrémisme avéré, et Napoléon va être enclin à ne plus choisir que des militaires. Et d'ailleurs, il restitue le monument à sa première vocation d'église.
Et au milieu de tous ces aléas autour des grands hommes, la réputation d'une femme, Sainte Geneviève, donc, apparaissait plus durable.
Alors, les révolutionnaires avaient confisqué la châsse qui contenait ses reliques pour les brûler, afin d'expier le crime d'avoir propagé l'erreur et entretenu le luxe des fainéants du clergé. Mais à partir de la Restauration, l'église, dans un processus de réparation, a inventé au sens propre de nouvelles reliques. Le Panthéon est redevenu basilique en 1815, puis suivez, 1830, Louis-Philippe lui a rendu son rôle de temple des grands hommes, sans y installer quiconque. Le prince président Louis-Napoléon Bonaparte, à son tour, 3 jours après son coup d'État, 1851, l'a restitué à l'église. Mais non seulement la Troisième République débutante n'a pas touché à ce statut, mais elle a commandé tout un programme de peinture, de Puvis de Chavannes notamment, qui représente Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc. Et enfin est venue la décision de 1885, ancrant le grand vaisseau sépulcral dans sa vocation actuelle et y portant Victor Hugo, le premier panthéonisé absolument durable.
Demain, nouvelle chronique sur les femmes du Panthéon. Ce sera Marie Curie. Bonjour Mathieu Vidard.
Oui, bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel est le programme ?
L'écoféminisme.
Ouais, à tout de suite.